Je vais présenter maintenant la conférencière de ce soir, Anne-Marie Moulin. Anne-Marie Moulin est agrégée de philosophie, elle est médecin, elle est directeure de recherche en histoire et philosophie des sciences au CNRS et elle a été médecin attachée en parasitologie à l'hôpital Laennec jusqu'à sa fermeture. Elle est également actuellement présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de recherche contre le sida. Pour ce qui est de son parcours, elle est entrée au CNRS à partir de 1979. Entre 1984 et 1989, elle a été fellow au Wissenschaftskollege, l'Institute for Advanced Studies de Berlin. Puis après, elle est devenue chercheur associé à l'Université de Harvard puis au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. Et elle est devenue également Harvey Fellow à l'Institut d'Histoire de la Médecine, Université Johns Hopkins à Baltimore. Après un doctorat de philosophie consacré à l'histoire de l'immunologie, Anne-Marie Moulin s'est spécialisée en parasitologie et en médecine tropicale. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales et elle a écrit plusieurs ouvrages. Tout d'abord, en 1983, L'islam au péril des femmes. En 1992, Le dernier langage de la médecine, publié aux presses universitaires de France. Elle a dirigé L'aventure de la vaccination, qui a été publié chez Fayard en 1996, et également Médecine et santé avec Roland Vast aux éditions de l'Orstom en 1996. Voilà, Anne-Marie Moulin, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
La diversité du monde vivant qui, si j'ai bien compris, a été l'objet de cette session de vacances à laquelle vous participez. La diversité du monde vivant a toujours été un objet d'émerveillement de la part des théologiens en particulier qui trouvaient dans le catalogue de la vie une occasion de s'extasier sur l'œuvre de la Providence. Les botanistes, les zoologistes, parfois d'esprit plus rassis, ont insisté eux aussi sur la magnificence des formes, sur la variété des mœurs et des modes de reproduction. Ils se sont attardés avec délectation sur toutes les variantes du possible. Aujourd'hui d'ailleurs, cette diversité du monde vivant dans son ensemble est présentée comme un patrimoine en danger, qui attend de recevoir un statut du droit international. Tel n'est pas tout à fait le cas de la diversité humaine, qui pose un cas à part. Après la défaite des théories polygénistes proposant de différencier des races humaines, le monogénisme l'a emporté, et quelque part avec lui, la diversité biologique, qu'elle soit la diversité humaine, qu'elle soit biologique ou, on le verra, même culturelle, est un peu hésitante sur le statut à adopter. Nous sommes aujourd'hui secoués par la crise du 11 septembre. Nous sommes un peu pris en otage entre les dérives communautaristes et la globalisation qui se présente sous forme d'une opération d'homogénéisation un peu terre brûlée. Bref, nous sommes quelque part, me semble-t-il, en ce qui concerne la diversité humaine, à la recherche d'un statut de la différence qui ne risque pas d'être négateur, voire mortifère. Aujourd'hui, en fait, la diversité humaine tend également à rejoindre la diversité du monde vivant en général, c'est-à-dire à se présenter comme un réservoir de forces cachées, de ruses possibles, tenues en réserve par la nature pour l'ingéniosité humaine. Tirant la leçon des grands et des petits génocides, on s'inquiète aujourd'hui, peut-être un peu trop tard, des îlots de diversité humaine en perdition, dans le Grand Nord, chez les aborigènes australiens, la liste est longue. On s'inquiète parallèlement de la disparition des langues dites rares, qui ne sont plus parlées, en Amazonie par exemple, que par une poignée d'hommes. On se précipite, on compile des dictionnaires, des syntaxes, on prend par la main des vieillards. Peut-être trop tard, le guerrier emplumé qui figure sur le logo de la Chomut Bank à Boston, dans le Massachusetts. Voilà deux termes indiens bien reconnaissables à l'oreille. Ce guerrier indien a disparu depuis longtemps. Comme la grand-mère indienne que l'on sert au spectacle de marionnettes pour la bourgeoisie bostonienne. L'inquiétude, le malaise, l'instabilité éthique et épistémologique de ce concept même de diversité humaine s'explique aisément. La différence humaine, travestie en hiérarchie, a été souvent meurtrière, et ce qu'elle soit biologique ou culturelle. J'y reviendrai, l'histoire atteste que la plus petite différence, qu'elle soit biologique ou culturelle, peut servir de seuil de discrimination, pire que la différence peut être constituée en prétexte à l'épuration. La différence, qu'elle soit insignifiante ou massive, biologique ou culturelle, peut également alimenter le désir et la haine, la joie de l'échange ou la destruction. Je voulais en commençant insister sur cette parenté profonde qui unit la diversité humaine, biologique et culturelle dans ce que j'essaierai d'appeler une vision politique de l'identité. Je suis philosophe et médecin. Ces deux titres, ou plutôt deux exigences, qui me maintiennent à la lisière du biologique et du social, du biologique et du culturel, non pas pour subordonner un registre à l'autre, mais pour jouir de leur richesse et de leur résonance. Il me semble qu'il est aisé de la méditation sur la diversité biologique de passer à une réflexion sur la diversité culturelle. Je voudrais illustrer ces analogies, ces parentés profondes, en vous présentant l'histoire d'une discipline qui m'a beaucoup passionnée, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui, je pense, a enrichi considérablement la notion de diversité humaine biologique, mais qui aussi suggère des perspectives intéressantes pour appréhender la diversité culturelle. J'ai nommé l'immunologie. L'immunologie, pour la plupart d'entre vous, évoque probablement, d'abord, le programme de vaccination qui a rythmé votre enfance ou peut-être est un préliminaire à un voyage exotique qui s'annonce. Elle évoque aussi, je pense pour tous, un virus tristement célèbre parce qu'il s'installe au cœur du système immunitaire dont il désorganise la trame et qu'il exploite à son profit. J'ai nommé, mais vous l'avez tous reconnu, le virus du sida. L'immunologie a joué un grand rôle dans la reconnaissance de la diversité humaine biologique à toutes ces époques, en utilisant les outils qui étaient disponibles à chaque génération, en commençant par les cultures cellulaires au laboratoire, en continuant aujourd'hui avec les outils de la biologie moléculaire, la PCR, l'amplification génique, le séquençage des gènes, le séquençage des protéines, la cristallographie, bref, toute la machinerie dont vous entendez souvent parler. L'histoire de la contribution de l'immunologie à la diversité humaine se déploie cependant de façon très inégale dans l'histoire et suivant ce que j'ai divisé en trois périodes extrêmement différentes. D'abord, une période qui va de la fin du XIXe siècle, disons aux années 30, où la reconnaissance de la diversité humaine apparaît négligeable par rapport à la découverte gourmande de la variété du monde microbien. Ensuite, une période encore un peu floue des années 30 aux années 80, où la diversité humaine apparaît à la fois incontournable et innombrable, si innombrable que l'immunologie va édifier pour son propre compte le thème de la singularité de l'individu, qui fonde l'idée biologique d'un soi, self en anglais, le soi est une traduction, une mauvaise traduction, opposé au non-soi comme l'objet privilégié de l'immunologie. Enfin, la période contemporaine, postmoderne si l'on veut, qui est marquée par une appréhension très différente de la biodiversité, la découverte du non-soi dans le soi du soi et réciproquement, la mobilité des frontières qui étaient supposées isoler les hommes au sein du monde vivant. Si l'immunologie s'occupe essentiellement, comme toute science biologique, d'organismes, de cellules, de molécules, de facteurs, d'enzymes, cela ne veut pas dire qu'elle soit complètement étrangère à ces différences culturelles qui divisent et enrichissent l'humanité. En appelant notre génération l'âge de l'immunologie, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus un biologiste, pas même un médecin, mais un anthropologue américain, David Napier, qui a voulu souligner que l'immunologie était partie prenante dans un débat où elle contribuait à montrer le caractère dialectique, contradictoire et dynamique de la diversité identité humaine. Je commencerai ce bref historique de la contribution de l'immunologie à la diversité biologique par rappeler rapidement son temps fondateur. L'immunologie, à la fin du XIXe siècle, a coïncidé avec un grand inventaire, l'inventaire des microbes, si prometteur qu'on pouvait espérer attribuer, identifier un agent pathogène pour toutes les maladies. L'immunologie se constituait comme la science de la guerre contre ces microbes, détectant, facilitant dans l'organisme une réponse spécifique ou plus large, anticorps ou cellules et cellules contre les microbes. Pour chacun des microbes qui fut découvert à cette époque, certains n'eurent que l'existence très éphémère. La mode passa vite. L'immunologie, terme devenu courant au début du XXe siècle, proposait, espérait un vaccin. Ce terme général avait été forgé par Louis Pasteur en 1881. C'était un terme totalement futuriste pour désigner les vaccins qu'il espérait, qu'il projetait dans l'avenir. Il désignait par vaccin un microbe manipulé, bricolé, qui pourrait entrer en compétition avec le vrai microbe et finirait par l'éliminer. Il est difficile d'imaginer, dans notre période Mossad, l'enthousiasme qui a saisi les journalistes comme les biologistes pour célébrer cette ère qui s'ouvrait de l'éradication des microbes. Le plus célèbre en était le bacille de la tuberculose, découvert par Koch en 1882. On oubliait complètement, Pasteur était bien ingrat, l'existence de micro-organismes très bienfaiteurs, ceux qui fermentent le vin, la bière, le vinaigre. On célébrait sans phare un monde enfin sans microbes et peut-être, partant, sans médecins, que l'on situait vaguement aux alentours de l'an 2000, précisément l'année de l'Université de tous les savoirs. À cette époque, la première contribution de l'immunologie à la diversité humaine fut celle des groupes sanguins. Les groupes sanguins furent décrits à partir de 1900. Karl Landsteiner, un médecin autrichien, et ses successeurs constatèrent que la plupart des individus présentaient des anticorps spontanément capables d'agglomérer et de détruire les globules rouges du sang. C'était introduire le principe d'une diversité inconnue jusqu'alors, une sorte de diversité gratuite. Ces anticorps, sans fonction connue, préexistaient bien sûr à toute transfusion, puisqu'au début du XXe siècle, la transfusion n'existait pratiquement pas comme pratique médicale. L'existence de ces anticorps, constituant des groupes humains, en quelque sorte antagonistes, compromettait bien évidemment le rêve de la transfusion, envisagé dès le XVIIe siècle comme un grand échange universel, un grand brassage de vices, de vertus, de fluides bénéfiques, bref, un grand échange de la santé et de la maladie. La guerre de 1914 marque des essais timides de transfusion chez les blessés. Une expérimentation dans l'urgence qui ne tint pas compte des différences entre individus, qu'on n'appelait pas encore des groupes. Les résultats de la transfusion furent probablement très discrets. Mais le rassemblement d'hommes, de soldats venus de tous les coins du monde allait permettre un autre type d'expérience. Certains d'entre vous ont peut-être vu le très beau film, pour moi, de Tavernier, qui s'appelle « Capitaine Conan ». Tavernier l'a situé dans le cadre du front des Balkans, de la guerre d'Orient. Et il a tiré parti, en cinéaste, de la diversité pittoresque des soldats. On trouvait effectivement côte à côte, pour la première fois à cette échelle, des soldats britanniques et indiens, des Français et des Sénégalais, des Australiens, des Canadiens, des Serbes, et j'en passe. Dans ce contexte cosmopolite, le médecin polonais Ludwig Hirschfeld et sa femme Anna ont mené sur le front une enquête sur les identités liées au groupe sanguin, ceux mêmes que vous connaissez aujourd'hui sous les noms de A, B, O, AB. Leur idée avait été de rechercher les groupes sanguins comme des marqueurs d'identité nationale, d'identité ethnique, voire religieuse. Dans la mesure où certains groupes, il y avait une sorte de confusion, pour certains, entre des groupes religieux et ethniques. Or, les résultats s'avérèrent totalement aberrants par rapport à cette hypothèse. S'il existait bien des proportions très variables dans la répartition des groupes sanguins en fonction des pays d'origine des soldats, le rapport A sur B notamment variait, s'accroissait régulièrement d'est en ouest, mais en gros la même diversité, au moins qualitative, se retrouvait fondamentalement partout, quelle que soit la nation d'origine. Et les minoritaires d'un pays partageaient largement le profil hématologique de leur maître. Hirschfeld avait d'abord employé l'expression de race biochimique. Il rétrograda prudemment par la suite lorsque l'anthropologie raciste commença à se développer en Europe entre les deux guerres et à revendiquer le groupe A, par exemple, comme le fleuron de la race aryenne. Par la suite, la classification des groupes sanguins a continué à se diversifier. À côté du système ABO, vous connaissez sans doute le système Rhésus, qui n'est pas seulement négatif ou positif, mais se diversifie en beaucoup de sous-groupes. Il existe en fait de multiples systèmes, des classements en fonction des molécules à la surface des globules rouges, dont la plupart n'ont, à la différence du système ABO et du système Rhésus, aucune incidence sur la compatibilité de la transfusion. Certains de ces groupes ne concerne qu'une poignée d'individus, le nombre des individus appartenant à tel ou tel groupe peut varier de plusieurs millions à quelques dizaines d'individus. L'étude des globules rouges a contribué à focaliser l'immunologie sur l'individu conçu comme doué de caractéristiques multiples empruntées à des ensembles extrêmement disparates. Au cours de la période suivante et commençant, car tout cela se chevauche, disons, entre les deux guerres, l'immunologie a ainsi déplacé son centre de gravité de la diversité du monde microbien, considéré comme l'autre à abattre, vers la diversité des soies, vers la diversité des organismes humains. Plus que la réflexion sur la transfusion, cependant, la transfusion, après tout, est une technique qui a été tardive et secondaire à la description même des groupes sanguins, c'est la réflexion sur une autre technique médicale, la greffe, qui va positionner l'immunologie comme cofondatrice avec la génétique d'un concept nouveau, celui d'individualité biologique singulière. La greffe d'organes, c'est d'abord une longue histoire ponctuée de rêves et d'échecs. Au début du siècle, les greffes d'organes, les greffes de reins notamment, s'avèrent totalement impossibles, non seulement entre races, entre espèces différentes, entre espèces animales différentes, mais entre individus appartenant à la même espèce. Alexis Carrel, prix Nobel en Amérique, à l'Institut Rockefeller, s'évertue à greffer des organes, en particulier des reins, entre des chiens. L'échec répété amène ce chirurgien incroyablement arrogant, sûr de lui et de son habileté manuelle, à reconnaître là, avec tristesse, qu'il y a un obstacle biologique de nature inconnue et insurmontable. Pendant la Deuxième Guerre, l'afflux de brûlés amène à reconsidérer les greffes et à essayer d'utiliser des greffes de peau. Si ces greffes de peau proviennent d'un donneur autre que le brûlé, elles sont systématiquement rejetées. La réflexion sur ce phénomène, qui s'accélère spécifiquement lorsqu'on s'acharne et qu'on reproduit la même greffe, une greffe avec de la peau provenant du même donneur, et c'est là un phénomène qui rappelle quelque peu la vaccination, la revaccination avec le rebond des anticorps. Cette constatation de rejet amène le zoologiste britannique Peter Medawar à publier en 1955 un ouvrage de synthèse auquel il donne un titre évocateur, The Uniqueness of the Individual, que je rendrai en français, pas très heureusement, par la singularité de l'individu. Parlant des greffes de peau, il note que pour lui, il n'y a pas d'outils plus qui permettent la différenciation plus fine, plus exquise des différences entre les individus que la greffe. On pourrait concevoir rétrospectivement ce moment fort comme un point culminant de fermeture totale de l'identité biologique de l'individu sur lui-même, une coupure radicale du soi et de l'autre, interdisant tout échange de liquide ou de fluide ou d'organes, et donnant à la reproduction humaine la caractéristique de l'espèce humaine de se reproduire, le caractère d'une exception étrange. Mais en fait, c'est là une reconstruction. Cette période culminante avec l'ouvrage de Medawar sur l'individu unique, isolé, apparaît simultanément comme le point de départ, au contraire, d'une analyse le reliant à de multiples sous-ensembles. Certes, pour Medawar, la formule globale de l'individu est unique, mais les éléments dont sont composés la formule sont communs avec d'autres individus, et des chevauchements existent entre ces sous-ensembles, entre les individus qui assouplissent l'idée d'une radicale différence. Science du soi, unique et singulier, l'immunologie s'est exprimée socialement, et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes. Précisément, elle a tiré prestige et visibilité de techniques qui transgressent cette radicale différence entre les individus. Autrement dit, en dépit de son assise théorique donnant un privilège à l'individu singulier, elle a tiré son prestige social de techniques qui transgressaient précisément le dogme. Les premières techniques médicales transgressant cette singularité de l'individu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la vaccination. Peut-être ne vous attendiez-vous pas à l'avoir citée ici parce que précisément on oublie cet aspect de transgression. La vaccination, effectivement, c'est quelque chose qui échappe en fait à l'histoire de l'immunologie ou en constitue, si l'on veut, la préhistoire. C'est une méthode empirique de protection, de prévention contre les infections qui a anticipé fortement sur l'arsenal du laboratoire de la recherche biologique, puisqu'on peut faire remonter la variolisation peut-être au XVIe siècle, les historiens discutent, et les Chinois qui la revendiquent aussi. Et la vaccination antivariolique proprement dite, l'invention de Jenner, remonte à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est important, c'est que pour lutter contre les épidémies, les autorités, dès qu'elles ont disposé de ces moyens, ont imposé aux collectivités un plan qui ignore superbement les particularités individuelles. Ce qu'elles entendent vacciner un corps unique, le corps social. Certes, Jenner, qui fut un bon observateur clinique et qui passa toute sa vie à s'occuper de sa vaccination antivariolique, avait noté quelques catastrophes, en particulier des accidents très graves chez des patients atteints d'eczéma, chez qui la vaccination entraînait des éruptions généralisées. Mais au terme d'un rapide bilan, comme on dirait aujourd'hui, risque-efficacité, la vaccination historique n'a pas pris en compte les différences biologiques entre les individus, qu'elle a superbement ignorées. Pourtant, Ludwig Hirschfeld, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'exploration des groupes sanguins sur le front d'Orient, avait déjà suggéré l'idée d'une inégalité profonde entre les individus dans leur réaction immunitaire. Il disait qu'il existait chez eux une force différente. Ils ne réagissent pas aux microbes avec la même puissance. Aujourd'hui, il est admis que les individus sont ce qu'on appelle répondeurs bas ou hauts, forts ou faibles, qu'ils répondent inégalement aux stimulations de la vaccination et aux infections, et que les agents pathogènes, lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, entraînent des cascades de réactions moléculaires qui suivent des itinéraires différents. Aujourd'hui, et c'est là un changement total par rapport à la perspective historique, on porte une attention plus grande aux incidents et aux accidents. On exige une sécurité maximale dans un procédé qui est destiné à la prévention et à la protection. D'autre part, la montée en puissance des explorations génétiques amène à reconsidérer l'idée d'une vaccination sans nuance s'adressant à l'ensemble du corps social. En application du principe de précaution, certains en viennent à proposer ce qu'on appelle un vaccin à la carte, c'est-à-dire un vaccin fait pour l'individu en fonction d'un peu tout, de son pédigré personnel, de ses goûts sexuels, de son style de vie, de ses voyages. Pareille orientation suscite évidemment des polémiques très violentes, qui ne reposent pas uniquement sur la question biologique, qui reposent aussi sur la signification sociale de la vaccination. On prend conscience que la plupart de ces procédures médicales, comme la vaccination, la greffe, la transfusion, mettent en jeu des valeurs sociales et symboliques, fragiles, précaires, comme l'égalité, la réciprocité et la solidarité, autant de valeurs dont l'immunologie s'est en fait rendue capable, voire coupable. La deuxième technique médicale qui manifeste une transgression de la diversité, de l'unicité et de la singularité de l'identité individuelle, c'est évidemment la transplantation. La transplantation, quand elle a commencé à fonctionner, est une intervention si prometteuse dans la réparation des organes qu'une sociologue américaine, Renée Fox, dans les années 60, prédisait que là encore, en l'an 2000, moment de toutes les prédictions, un acte chirurgical sur quatre serait une greffe. Certes, nous n'atteignons pas ce chiffre aujourd'hui. Cependant, la greffe s'est tellement multipliée, intéressant toutes sortes d'organes, de l'intestin au poumon, au pancréas, avec une exception qui demeure totale sur le cerveau. Il y a tellement de greffes que l'on parle aujourd'hui d'une pénurie d'organes et que dans un autre lieu, il n'y a pas si longtemps, à Pompidou, se tenait une réunion pour persuader un peu les Français de donner plus volontiers, morts ou vivants, leurs organes. La greffe a contourné l'obstacle envisagé comme formidable par Carrel. Elle a joué sur la modification par la chimiothérapie de l'environnement immunitaire du corps. Elle a joué aussi sur l'appariement des receveurs et des donneurs, parenté génétique des familles, mais aussi parenté biologique, associant des individus qui n'ont aucun lien de parenté, en fonction d'antigènes, de molécules portées par les globules blancs et par les tissus. Le plus connu de ces systèmes est celui qu'on appelle HLA, pour histocompatibilité locus antigène, décrit par des équipes internationales et parmi elles, bien sûr, l'équipe de Jean Dossé à Saint-Louis. La greffe aujourd'hui participe incontestablement à une sorte d'immortalisation potentielle des individus par échange, parfois répété, des organes, au prix évidemment d'un partage de ces organes, au mépris des différences biologiques entre vivants et morts et entre les vivants eux-mêmes. Mais la situation peut-être la plus intéressante, la plus piquante, parce qu'elle nargue le plus l'immunologie, est celle qui tout à la fois fascine encore l'immunologie contemporaine, qui est loin d'en avoir élucidé tous les mécanismes, et qui suscitait déjà la réflexion au XVIIe siècle, c'est celle de la greffe embryonnaire. Lorsque Jean-Baptiste Denis, un chirurgien parisien, essayait sous Louis XIV de trouver des arguments pour persuader ses confrères que la transfusion était non seulement sans danger, mais bénéfique, il trouvait un argument dans l'idée qu'elle est possible parce que la grossesse peut être décrite, peut être comprise comme une sorte d'infusion permanente que la mère entretient avec le fœtus en son sein, alors que celui-ci représente l'étranger, la semence du père. L'immunologie, dans son effort de contribution à la diversité biologique, est ainsi prise à revers par ce démenti éclatant à la singularité irréductible de l'individu. Elle est interpellée par ce contre-exemple plus frappant qu'on puisse imaginer de transgression réussie de la différence entre individus. Certes, évidemment, il s'agit d'une suspension, d'une tolérance, comme on dit en immunologie, qui est temporaire. L'accouchement, la délivrance, la bien nommée, peut être compris comme une expulsion, voire un rejet qui débarrasse la mère d'une présence étrangère finalement importune. Cependant, cette ouverture problématique des frontières, dont encore une fois l'immunologie est loin d'avoir percé tous les mystères en termes de réactions moléculaires, amène à reposer le problème de la diversité et à ne pas se borner à enregistrer des frontières rigides qui sépareraient les individus. Bien loin d'apparaître comme une frontière, comme une entité stable et fermée sur elle-même, l'individualité biologique connaît en effet aujourd'hui un temps, on précise qu'elle connaît d'abord, fondamentalement, un temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage ne coïncide pas nécessairement avec la période embryonnaire. Elle la déborde probablement très au-delà. Pendant cette période d'apprentissage, l'individu apprend à différencier les molécules avec lesquelles il est en contact en faisant une sorte de tri entre ce qu'il considérera comme son soi et ce qu'il considérera potentiellement comme un non-soi contre lequel il pourra se défendre. Cette transformation qui peut donner lieu à bien des écarts et encore une fois à une diversité supplémentaire entre les individus se produit aussi en fonction de l'environnement et de l'histoire personnelle de l'individu qui amène à différencier profondément, par exemple, des jumeaux, de vrais jumeaux, qui ne disposent jamais, par définition, du même environnement et qui n'auront pas la même histoire. J'arrive ainsi à la période contemporaine de l'immunologie postmoderne, profondément renouvelée dans sa compréhension de la diversité comme de l'identité humaine. Tout d'abord, il faut bien dire que l'idée de l'éradication des microbes autour de nous, en nous, Metchnikoff souhaitait, pour immortaliser l'espèce humaine, nettoyer à fond le tube digestif comme un sou neuf, parce qu'il y voyait, dans ce cloaque que nous portons en nous, la cause profonde de la brièveté de la vie humaine. Cette idée d'éradication des microbes a fait long feu. Nous sommes plutôt à l'ère des compromis, de la négociation, du contrôle. C'est devenu le terme officiel de l'OMS qui a abandonné plus ou moins le terme d'éradication pour ne pas être en retard incessamment sur son calendrier, comme elle l'a été en l'an 2000 où elle avait annoncé la disparition du paludisme, de la tuberculose et de la poliomyélite. Évidemment, ce changement de perspective est lourd d'angoisse. Mais le terme de contrôle est préféré parce qu'on craint de modifier imprudemment des équilibres écologiques et surtout de sélectionner des germes nouveaux qui seraient plus méchants, comme m'ont dit une fois les paysans béninois parlant des moustiques qui étaient revenus les tourmenter après des campagnes répétées de désinsectisation. L'identité humaine, plus fragile mais plus riche, s'ouvre sur l'intérieur comme sur l'extérieur d'elle-même. Avec la découverte d'un monde de diversité à l'intérieur de ce même individu, un monde de forces dormantes empruntées au monde vivant qui l'entoure. Pour parler comme les anthropologues, il existe de véritables démons que nous portons en nous, des êtres appartenant au monde vivant, prêts à entrer en action si l'occasion s'en présente, mais qui peuvent aussi avoir une action bénéfique. Il peut par exemple s'agir de rétrovirus, comme les virus VIH, qui sont endormis dans le noyau des cellules, mais aussi des bactéries commensales, celles que Metchnikoff incriminait précisément dans l'intestin, qui mènent une vie tranquille, jusqu'alors insoupçonnée, et qui peuvent, on le sait maintenant, jouer un rôle positif, actif, en aidant la vaccination. En particulier la vaccination quand elle se produit par voie orale. Il peut s'agir aussi de virus oubliés dans nos gènes, déposés par l'évolution, de particules enfin avançant ou retardant ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. Des facteurs biologiques, des molécules, s'opposent ou se succèdent dans un véritable cycle pour prolonger ou au contraire abréger la vie de nos cellules. Enfin, il peut s'agir de protéines normales de l'organisme qui, transformées, vous avez entendu parler des prions, deviennent des constituants pathologiques et peuvent alors s'agglomérer en déclenchant des affections chroniques. Émergence, réémergence sont des termes qui deviennent plus fréquents que celui d'éradication. Ces termes d'émergence et de réémergence renvoient à l'inquiétude devant la mobilisation des frontières entre les êtres vivants. Certains biologistes, à propos de la vaccination, s'interrogent sur un tournant historique que nous sommes peut-être en train de franchir, sur les limites historiques que pourrait rencontrer notre action de prévention, notre action de lutte contre des formes de vie diverses qui nous sont à la fois internes et hétéronomes. Ils considèrent par exemple que la vaccination, cette aventure collective à laquelle nous avons tous participé, a peut-être atteint ses limites naturelles. Nous avons commencé par remporter de grands succès, l'époque pasteurienne et même jusqu'à nos jours, en désarmant peut-être des bactéries faciles, des virus d'accès aisé. Et nous sommes peut-être parvenus, c'est là la question pessimiste, à une limite dans la mesure où les agents pathogènes, celui du sida par exemple, auxquels nous nous mesurons dans la vaccination ou la thérapeutique, habitent notre organisme qui leur fournit autant de sanctuaires. Ils sont protégés par les cytokines, ces molécules sécrétées par le système immunitaire au cours des réactions d'inflammation. Ils s'abritent derrière les récepteurs qui leur constituent autant de bouclier vivant. Ce message pessimiste, ambigu, ambivalent tout au moins, de la nouvelle immunologie témoigne en tout cas d'une attention à cette diversité qui fait de nous des villes ouvertes sur le monde vivant qui nous entoure, des zones non plus isolées de sécurité, mais des zones de passage où se négocie incessamment la différence avec ce qui nous entoure. Notre survie est à ce prix. La biologie, et je m'achemine vers ma conclusion, la biologie de façon générale, et l'immunologie en particulier, j'espère vous l'avoir démontré, instruit le procès, le processus de construction des identités humaines à sa façon. Par suite du scandale induit par les théories raciales et racistes, la différence biologique qui a été déjugée à plusieurs reprises dans un effort pour protéger la liberté humaine qui ne saurait connaître des déterminations biologiques. Le refus de l'eugénisme, de la sociobiologie, a amené à refuser le déterminisme trop étroit de la biologie. La méfiance est grande vis-à-vis des classifications biologiques dont on sait par ailleurs qu'elle repose souvent sur des critères qui se périment. Cependant, il n'est pas dit que les identités culturelles nous enchaînent moins fortement. On tue dans le monde tout autant pour des raisons de différence de couleur que pour des façons différentes de rendre un culte ou de parler une langue dont la structure ou le vocabulaire diffère légèrement. J'ai été amusée de constater qu'un événement qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, les Nestoriens, partisans de la nature unique du Christ, nature humaine et non pas divine, ont rendu les armes et ont été réintégrés discrètement dans l'Église catholique. Un prélat s'exprimant à la télévision faisait remarquer qu'il n'y avait là que quelques différences à propos de l'incarnation. Ce sont des différences qui, dans le temps, ont été jugées majeures et pour lesquelles on s'est étripé allègrement. Aujourd'hui encore, la guerre de Bosnie a illustré comment deux groupes, qu'on peut dire biologiquement proches, voire identiques, parlant fondamentalement la même langue, partageant probablement plus de façons de voir que des Français du Nord et du Midi, se sont réveillés dans deux camps retranchés. Les Balkans illustrent d'ailleurs parfaitement comment des différences peuvent se créer rapidement et de façon, je dirais, contagieuse. La fiction diplomatique qui fait aujourd'hui figurer des traducteurs entre les Serbes et les Croates, afin d'en finir avec la fiction supposée d'une langue commune qui s'est appelée autrefois le serbo-croate, n'aura pas seulement la vie dure, on peut imaginer qu'elle cédera finalement la place à une différenciation croissante. Les Allemands de l'Est étaient sur le chemin d'une différenciation entre un Ouest et un Est allemand, le premier influencé par l'anglais, le deuxième peut-être influencé par la langue russe, en tout cas certainement influencé par un vécu quotidien, idéologiquement et politiquement différent. Il ne s'agit pas tant d'opposer des similitudes biologiques à des champs de diversité culturelle que de prendre la mesure que dans les deux cas, ces identités sont fluides, instables, sans cesse recomposées. Et de plus, qu'au fond, ces identités sont simplement affaires de temps, de doses et de circonstances. Je prends exprès ces trois paramètres, je les cite d'après un article récent de Zinker Nagel, un prix Nobel de l'immunologie il y a quelques années, qui voulant dire qu'une réaction immunitaire n'était jamais absolue, que lorsque on introduisait une bactérie, une molécule, un antigène, un petit bout d'acide nucléique, puisqu'il y a maintenant des vaccins génétiques, on ne pouvait jamais prédire totalement le résultat et que c'était, comme il le disait, empiriquement une affaire de dose, de temps et de circonstances. On peut dire la même chose des identités culturelles humaines, qu'elles sont aussi affaires de temps, de dose et de circonstances. C'est cette analogie entre des modes de pensée biologiques et des modes de pensée sociaux et culturels qui a probablement fait dire à l'anthropologue américain que je citais tout à l'heure, David Napier, avant même le 11 septembre, que notre génération était l'âge de l'immunologie. Que voulait-il dire par là ? Il voulait inciter une réflexion sur la diversité biologique humaine. L'immunologie ne prétend pas se substituer aux sciences humaines, mais elle suggère certainement profondément d'être attentif à l'entrelacement instructif du soi et de l'autre et des autres soi. C'est ce que Napier appelait encore « penser vaccinologiquement », entrer en contact avec la différence de l'autre, comme l'organisme entre en contact avec un germe qui est peut-être un soi modifié. Contribution fondamentale à l'étude de la diversité biologique humaine. L'immunologie, et ce sera ma conclusion, l'immunologie va bien au-delà du biologique. Elle suggère quelque part une réconciliation potentielle du même et de l'autre qui tempère le pessimisme de mes propos, une réconciliation du soi, du même et de l'autre, où la différence serait désormais avant tout point de départ du dialogue et non point de l'exclusion. Je vous remercie.
Je voudrais vous poser une question à propos des télomères. Les télomères diminuent jusqu'à la fin de la vie de toutes les cellules, sauf pour les requins et les saumons. Actuellement, c'est à l'étude. Est-ce qu'il y a une influence immunologique qui serait en question, là ?
Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu votre question. Pouvez-vous la répéter ?
Oui. Donc, je parle des télomères de toutes les cellules.
Oui.
Il y a deux espèces, les saumons et les requins, qui ont leurs télomères qui ne diminuent pas, puisque partout dans les espèces, ils diminuent jusqu'à la mort. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a une influence immunologique dans ces deux cas particuliers ?
Pour le moment. J'avais raison de vous faire répéter votre question, parce qu'en fait, je ne suis pas zoologiste et je n'ai pas d'explication immunologique. Je pense néanmoins qu'on peut rapprocher ce phénomène de phénomènes d'immortalité qui se produisent par exemple chez les requins. Vous savez, le renouvellement des dents, par exemple, qui chez l'espèce humaine est malheureusement interrompu très tôt. Les requins, au contraire, possèdent des dentures successives qui permettent à leur mâchoire de happer leur proie. Il y a donc une sorte de jeunesse chez les requins qui contraste par ailleurs avec la relative pauvreté de leur système immunitaire. Y a-t-il un lien entre les deux ? Je ne sais pas.
Bon, j'ai assisté à toutes les conférences de cette session. Et j'ai l'impression qu'au point de vue diversité, il y a peu de diversité relativement quand on s'adresse aux gènes, puisqu'on trouve par exemple les gènes OX, on les trouve aussi bien chez la drosophile que chez la souris. Et d'autre part, tout le monde sait qu'entre le chimpanzé et l'homme, il n'y a pratiquement pas de différence génétique. Et Changeux, entre autres, appuie beaucoup sur l'importance du post-génétique, c'est-à-dire l'épigénétique par rapport au génétique. Et on peut se demander si le culturel, on peut se demander non, mais le culturel est notablement, typiquement, épigénétique. Alors, finalement, on a l'impression que la diversité s'accroît depuis ce qui est moléculaire et génétique jusqu'à ce qui est culturel. Et alors là, quant aux conséquences éthiques que ça comporte, ça on peut en discuter. Mais je voulais insister surtout sur la question plutôt de classification.
Je peux répondre. En fait, d'ailleurs, vous ne posez pas une question, vous rappelez quelque chose que j'aurais dû évoquer, c'est qu'effectivement, nous partageons une quantité de gènes incroyable, non seulement entre congénères humains, mais avec des animaux que nous regardions avec un certain mépris, pas seulement avec le chimpanzé, qui a toujours été, enfin en tout cas depuis Darwin, proche cousin, mais avec la souris, ce qui là est totalement inconcevable, et même plus qu'avec la souris, qui est après tout un animal gentil et peu offensif, mais avec le rat. Donc voilà qui est très désagréable, mais qui effectivement pose un problème très intéressant. La diversité va donc jouer sur un tout petit registre, et c'est là que le culturel va certainement amplifier considérablement des différences que nous ne savons pas très bien attribuer, car je ne prétendrai pas tout savoir des problèmes immenses que vous avez évoqués.
Bonjour, excusez-moi, moi je ne suis pas du tout scientifique, donc ma question va peut-être vous sembler un peu plate, j'aurais peut-être pas les mots. Moi, la question que je me posais, c'était de savoir si les progrès en génétique, et notamment en manipulation génétique, pourraient déboucher sur une remise en cause de la caractéristique essentielle, en fait, de l'être humain. Et si on pouvait, donc c'est une question subséquente, si on pouvait imaginer que dans un futur plus ou moins éloigné, on serait en mesure d'introduire des différences et qu'à ce moment-là, il y aurait une différence entre des êtres qui auraient accès à une médecine génétique et d'autres qui ne l'auraient pas. Et à ce moment-là, le problème de la différence que vous souleviez tout à l'heure, on aurait à la fois une différence d'ordre biologique et d'ordre, et peut-être très rapidement, d'ordre politique aussi, qui serait introduit par ce progrès-là, entre guillemets.
La réponse est, je suis très timide comme vous devant ces manipulations génétiques dont je ne suis pas spécialiste et qui, quelque part, comme vous, m'impressionnent, me fascinent et me font un peu peur. Je fonde cette idée sur le fait que, par exemple, pour des choses qui apparaissent pourtant toutes simples, comme les vaccins génétiques, on ne sait pas vraiment très bien quel est le devenir actuellement, dans l'état actuel de nos connaissances. On ne sait pas très bien quel est le devenir d'un petit bout d'acide nucléique que l'on introduit dans le muscle. On ne sait pas très, très bien ce qui se passe après dans l'intimité du muscle. Et c'est là pourtant quelque chose qui apparaît comme très limité. Les manipulations génétiques peuvent certainement, si elles sont réalisées, introduire des différences, je crois que c'est ça le sens de votre question, incontestablement un homme différent. Ce que je n'ai pas compris par contre, c'est, vous avez évoqué la médecine génétique, vous voulez dire la médecine de la réparation des gènes ou qui fait des individus des recombinants.
C'est là où, effectivement, je ne suis pas scientifique. Ce que je me disais, c'est qu'en manipulant génétiquement comme ça, est-ce qu'on pourrait créer des êtres humains qui seraient très différents ? Et à ce moment-là, on aura une grande différence sociale entre des gens qui auraient accès, finalement, par exemple, je pense à ça dans la médecine reproductive, donc qui pourraient faire manipuler le capital génétique de leurs enfants et socialement des gens qui n'auraient pas accès du tout à ce type de soins et à ce moment-là on réintroduirait en fait cette une nouvelle forme de différence
Oui mais alors là quand même vous me prenez par mon point sensible, c'est que franchement, on n'a pas attendu la médecine génétique pour avoir dans le monde une médecine à 2, 3, 4 vitesses. J'ai beaucoup parlé de la greffe. Vous savez très bien comme moi qu'il y a des pays où la greffe n'est pas encore arrivée. et où les citoyens doivent partir à l'étranger s'ils veulent bénéficier d'une greffe. J'ai assisté à l'ouverture du service de transplantation à Cotonou au Bénin, c'était l'année dernière. Donc on n'a pas attendu la médecine génétique pour qu'il y ait des groupes qui bénéficient de techniques avancées qui peuvent leur être utiles. Là, je crois que de ce point de vue-là, c'est quelque chose déjà qui nous pose problème profondément dès maintenant.
Est-ce que c'est une incidence qui est toute une tranche de population du fait qu'on n'a plus de service militaire obligatoire, qui est des tranches de population hommes qui ne soient plus vaccinés? Est-ce que ça a des incidences à très long terme qu'on ait pu mettre en évidence? Parce que la suppression du service militaire fait que des tranches pendant des années ne seront plus vaccinées.
Alors là, la réponse, je crois que vous la devinez tous. Bien sûr, il y avait une différence considérable entre les deux sexes, en dehors de toutes celles que vous connaissez, à savoir qu'il y avait des femmes qui contractaient le tétanos, tout simplement parce qu'elles étaient moins vaccinées que les hommes à cause du fameux service militaire. Maintenant, nous sommes, au moins pour cela, enfin à égalité. Et du même coup, on repose justement la question de par où, par quel véhicule, à quel moment on regroupera toute la population pour la vacciner, et il n'y a pas de réponse. Ça pourrait être au moment des élections, ça pourrait être... Enfin, c'est aux politiques d'inventer un nouveau temps fort. De toute façon, il est clair que si le service militaire a disparu, il faut réinventer quelque part un service, un temps fort qui rassemble les jeunes à un moment donné.
J'aimerais avoir votre avis à propos de quelque chose que j'ai entendu. Là, pardon.
Levez-vous. Ah, excusez-moi, je ne vous voyais pas.
C'est pas grave. J'ai entendu, du moins, un professeur d'immunologie m'a raconté qu'à l'heure actuelle, on penserait qu'en faisant des transplantations sanguines, des transfusions sanguines, je vais dire, pardon, avant une transplantation de greffe, ça luttait contre le rejet de greffe. Alors, j'aimerais avoir votre avis.
L'immunologie m'a beaucoup plu en tant que philosophe parce qu'on pouvait y dire quelque chose et son contraire. Je crois que c'est ça qui m'a amené à l'immunologie. C'est le côté dialectique. Ce qui m'a amené aussi à la médecine, c'est ce côté dialectique. C'est-à-dire qu'en médecine aussi, parfois, on dit quelque chose et son contraire. C'est peut-être quelque chose d'un peu dérangeant de penser que la vérité s'inverse. Mais au cours d'une vie de médecin, on voit certainement plusieurs fois des dogmes remis en cause. Et je pense que c'est ça qui ouvre, ou devrait ouvrir, tous les médecins sur les sciences humaines. En matière de greffe, effectivement, pendant longtemps, on évitait les transfusions dans l'idée que ces transfusions allaient susciter la fabrication d'anticorps qui, le jour venu, pourraient attaquer les globules contenus dans la greffe. Et tout d'un coup, dans les années 80, un Américain a proposé une thérapeutique inverse, à savoir de faire des petites transfusions répétées avant la greffe. Il s'est ensuivi une gigantesque controverse qui a opposé en gros les Américains au reste du monde dans ce domaine. Et avec un doute profond, il était possible que ce qui réussisse en Amérique avec des gens de composition génétique différente, probablement plus diversifiés que les Européens, avaient des conséquences qui n'étaient pas transposables dans les deux cas. En tout cas, la controverse s'est éteinte en ce que, sans qu'on arrive, je ne peux pas vous donner de réponse, parce qu'on a cessé pratiquement de faire ces transfusions, après qu'il y ait eu une controverse pour dire les uns pensant que c'était efficace, les autres non. La proposition que c'était parce que ça sélectionnait des gens qui faisaient des rejets moins facilement, etc. En tout cas, tout simplement, ce qui a mis tout le monde d'accord, c'est l'arrivée d'un puissant immunosuppresseur, la cyclosporine, qui a mis tout le monde d'accord en élevant la tolérance immunitaire et en permettant la greffe dans l'un et l'autre cas. Donc, la controverse a cessé, fausse de combattants.
J'ai une double question. On nous prépare en ce moment un monde aseptisé. Je pense, c'est ici. Je pense à la commercialisation du fromage au lait cru qui est très réglementée. Je pense également à certaines importations alimentaires vers les États-Unis qui sont également très réglementées. Je voudrais donc les deux points de vue du médecin et du philosophe. D'abord, le point de vue du médecin sur le fait est-ce que ce n'est pas une, comment dire, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre un peu en. Le terme m'échappe, de ne pas faire confiance en fait à l'organisme, à la diversité du système immunitaire qui serait en mesure, d'une part, de lutter contre les microbes éventuels, et dans la mesure où, dans le temps et dans l'espace, des millions de personnes se sont nourries de ces choses-là sans pour autant que l'humanité ne soit mise en danger. Alors, du point de vue médical, est-ce que ça n'augure pas prochainement de quelque chose d'assez bizarre, médicalement parlant? Et puis, le point de vue du philosophe, qu'est-ce que ça signifie finalement? Quel est le ressort de tout ça?
Je crois, cher monsieur, que vous avez donné la réponse dans votre question. Vous la savez déjà. C'est tout simplement qu'effectivement, il est probable que la stérilisation extrême de certains produits, je pense à mes bons fromages d'Auvergne, mais aussi à vos produits africains, que l'apprentissage des germes précoces, à condition que le système immunitaire soit en état de marche, et c'est là probablement que le bât blesse, c'est-à-dire que dans des pays plus rudes, où il y a une sélection naturelle forte, les organismes, les systèmes immunitaires sortent probablement renforcés de l'apprentissage précoce des germes. C'est par ce qui fait que le raisonnement qui amène à, par exemple, souhaiter des aliments stérilisés, sous contrôle, d'abandonner toutes sortes de substances dont l'humanité s'était nourrie, est au fond moins, est une protection des individus faibles, qui sont relativement peu nombreux dans un sein d'une population. Et de toute façon, on peut se demander si le prétexte qui est donné, prétexte sécuritaire, prétexte de sécurité biologique, ne vient pas souvent à point pour favoriser des circuits d'importation et d'exportation qui, eux, sont pour des raisons mercantiles. Mais ça, je pense que c'est là une interprétation très générale qu'il faudrait nuancer en fonction de tel et tel produit. Mais c'est clair que dans un système immunitaire qui fonctionne bien, l'apprentissage, la constitution de l'immunité se fait au début grâce précisément à la présentation dans l'environnement de germes qu'il trouve, y compris dans les aliments.
Anne-Marie Moulin, merci.